Bien, nous allons tourner ce matin dans la lettre de Paul aux Éphésiens. On va faire une pause dans la série sur Romains pendant cette période estivale, même si ce n'est pas tout à fait les vacances, enfin pour certains. Mais on va faire une pause dans notre série. On va regarder ce matin Éphésiens. Chapitre 2. Alors, on a déjà regardé à plusieurs reprises les 10 premiers versets, mais j'ai pas trouvé de note sur le verset 10. Alors, on va regarder le verset 10 ce matin. Mais Éphésiens 2, on va lire tous les 10 premiers versets. Un passage que je pense qui est assez familier avec nous. Paul nous rappelle, Paul écrit à cette église et à ses croyants, en leur rappelant ce que nous sommes par nature, ce que nous étions par nature, et ce que le changement que Dieu a opéré, un changement qui ne vient pas de nous, mais qui vient de Dieu. Il écrit ceci, donc, au chapitre 2, à partir du verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et jusque-là, la parole de Dieu. Et donc la question que nous voulons considérer et à laquelle ce verset 10 répond, c'est quelle est la place des œuvres dans le salut? Parce qu'il y a une certaine confusion dans le monde chrétien aujourd'hui à ce sujet, et beaucoup, malgré l'enseignement de la parole, beaucoup sont, comme on dit, à côté de la plaque. Une des erreurs, par exemple, une des erreurs les plus courantes, c'est de dire que les œuvres sont une condition du salut. Et ça, c'est l'erreur de l'Église catholique romaine qui enseigne que nous sommes justifiés par une combinaison de foi et d'œuvres. La formule de l'Église romaine, c'est la foi plus les œuvres égale la justification. Pour prendre une image, l'Église romaine enseigne que la foi, c'est comme l'anneau de la bague et les œuvres sont comme le joyau qui vient orner cet anneau et qui vient donner la valeur à cet anneau. Et le but de la foi, selon l'Église romaine, c'est de présenter les œuvres pour être sauvé. La réforme protestante, bien entendu, s'est battue contre Rome, en particulier sur ce sujet. Le problème du salut par les œuvres, mélangé avec de la foi, c'est qu'on ne peut jamais connaître la paix. On ne sait pas. On ne peut pas être sûr d'être sauvé. On ne sait pas si nos œuvres en sont suffisamment bonnes pour que Dieu nous accepte et pour que Dieu nous justifie. On a vu en Romains chapitre 3 que Paul dit au verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Et on vient de lire dans les versets 8 et 9 que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et donc, si on reprend l'image de l'anneau de l'Église protestante traditionnelle, à l'origine du moins, dit que l'anneau, la foi, c'est l'anneau qui présente non pas le joyau de nos œuvres, mais le joyau de l'œuvre de Christ. Et de l'œuvre de Christ pour nous. Une autre erreur que l'on voit surtout, que l'on voit beaucoup dans l'Église évangélique, c'est de dire que puisque le salut n'est pas par les œuvres, alors les œuvres ne comptent pas. Ils disent, aussi longtemps que je crois dans le Seigneur Jésus, si j'ai pris une décision pour Christ, si je me suis avancé quand le prédicateur a lancé son invitation, alors quoi que je fasse n'a aucun impact sur mon salut. Et on appelle ce point de vue le point de vue antinomien, anti-contre et nomien, nomos, la loi, contre la loi. Et certains vont aller jusqu'à enseigner que si quelqu'un professe la foi en Christ, son salut est assuré, même s'il ne porte jamais de fruits spirituels, même s'il vit, continue de vivre une vie de péché le restant de ses jours. Mais cela est bien sûr en contradiction avec ce qu'enseigne la parole de Dieu. En Romains chapitre 6, les premiers versets, versets 1 et 2, Paul pose la question, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes unis à Christ, nous sommes morts au péché. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Alors, premier point, la nécessité des œuvres. C'est la première chose que Paul dit ici, il parle d'œuvres. Alors, les œuvres n'apportent pas le salut, les œuvres ne sont pas la condition du salut, non, mais le salut en Christ est accompagné, produit des œuvres. Ayant été sauvés du péché par grâce, par le moyen de la foi en Christ, nous sommes sauvés pour une vie nouvelle, une vie qui porte du fruit, une vie qui porte des œuvres. Nous sommes son ouvrage, dit Paul, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Charles Spurgeon, ce prédicateur londonien, qui a fait remarquer que si nous devions vendre aux enchères les différents éléments du salut, les enchères pour le pardon monteraient très très haut. Par contre, très peu de personnes enchériraient sur la sainteté. Ça resterait plutôt très très bas. Et il dit ceci, « Supposez qu'un instant que je prenne la sanctification, le renoncement à tout péché, un changement radical de cœur, l'abandon de l'ivrognerie et des jurons. Beaucoup de personnes diraient, je ne veux pas de cela. Mais par contre, je veux bien aller au ciel, mais je ne veux pas de cette sainteté. Mais Dieu ne met pas aux enchères les différents éléments du salut. C'est tout ou rien. Si on vient à Christ et si on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, ou alors on ne l'accepte pas. Et Spurgeon de conclure, Dieu ne divisera jamais l'évangile. Il ne donnera pas la justification à un homme et la sanctification à un autre. Il ne donnera pas le pardon à l'un et la sainteté à l'autre. Non, c'est tout. Ceux qu'il appelle, il justifie. Ceux qui justifient, il sanctifie. Et on a vu cela au Romains chapitre 8. Tout comme la lumière et la chaleur sont liées de façon inséparable aux rayons de soleil, de la même manière, la justification, la sanctification, le pardon des péchés, la vie transformée pour accomplir des bonnes œuvres sont des éléments inséparables de l'Évangile. Nous sommes sauvés, dit Paul, par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Mais cette foi qui sauve n'est pas seule. Elle est produite toujours de bonnes œuvres pour Dieu. C'est ce que Paul enseigne partout dans ses lettres, pas seulement ici. En Tite 2, verset 14, par exemple, il dit que « Christ est mort afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Dieu nous a rachetés pour être zélés pour les bonnes œuvres. En 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit que Paul, que Dieu pourvoit à tous nos besoins afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et ce n'est pas seulement Paul qui enseigne cela, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus-Christ aussi, qui par exemple en Jean chapitre 15 dit ceci, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Le fruit des œuvres bonnes ne fait pas de nous des disciples de Christ, mais il glorifie Dieu et il prouve que nous sommes les disciples de Christ. Les œuvres ont leur place dans le salut. Elles ne sont pas une condition, elles ne sont pas une cause du salut, mais elles sont une conséquence du salut. Elles sont le fruit du salut. S'il n'y a pas de fruit, s'il n'y a pas d'œuvre bonne dans la vie d'une personne, il n'y a aucune raison de croire que cette personne est un disciple de Seigneur Jésus-Christ. Il y a plutôt des raisons de douter de sa profession de foi. 1 Jean 2, versets 5 et 6, l'apôtre Jean écrit « L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Et une bonne façon d'évaluer notre essai spirituel, c'est de voir comment on répond à ce genre d'enseignement. Est-ce que j'aime entendre dire que le salut implique des œuvres bonnes et une vie transformée? Est-ce que je préférerais un salut qui me délivre de la condamnation du péché, mais pas du péché lui-même, qui me laisserait vivre comme je le souhaite? Quelle est mon attitude à l'égard de la sainteté? Est-ce que je désire un cœur plus pur, un cœur plus saint, un cœur plus aimant, ou est-ce que je suis satisfait avec le cœur que j'ai aujourd'hui? Le salut que le Seigneur Jésus-Christ donne est un salut qui implique un désir pour une vie qui soit transformée, de plus en plus transformée à l'image de Christ, mais aussi une réalisation que ce désir, une réalisation de plus en plus claire de ce désir dans ma vie, une croissance dans ma vie. Quand la Bible parle des œuvres, beaucoup de personnes deviennent nerveuses, elles ne sont pas rassurées. Et une des raisons pour cela, peut-être la raison principale, c'est que nous connaissons trop bien la puissance du péché qui est encore en nous. Mais Paul ne parle pas seulement de la nécessité des œuvres ici. Il parle deuxièmement de la source des œuvres. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. La source de nos œuvres bonnes, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Nous sommes sauvés par grâce. La grâce seule est la source de notre salut, mais elle est aussi la cause de notre croissance dans la sainteté. De sorte que notre croissance et nos œuvres ne reposent pas sur notre force, mais elles reposent sur la force de Dieu et sa puissance à l'œuvre en nous. Paul, nous l'avons lu au début de ce chapitre, nous dit que Dieu est venu lorsque nous étions encore spirituellement morts, lorsque nous étions dans nos péchés, lorsque nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres, lorsque nous n'avions aucun désir de servir Dieu, lorsqu'il n'y avait pas la plus petite particule de vie, pas la moindre particule de vie spirituelle en nous. Et Paul décrit notre salut comme une résurrection spirituelle, versets 4 et suivants. Dieu nous a rendus vivants avec Christ. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est Dieu qui a insufflé cette vie spirituelle dans nos cœurs. Et c'est au début. Mais c'est lui qui continuera à nous donner la force dont nous avons besoin pour porter le fruit, ces fruits, le fruit des œuvres bonnes. Beaucoup de chrétiens manque d'espoir pour la sainteté et de force pour vivre une vie transformée parce qu'ils pensent qu'ils doivent faire cela par leur propre force. Et Paul nous dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est son œuvre en nous qui nous transformera et qui nous fera porter du fruit. La meilleure illustration, la meilleure déclaration de cela est dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12, Paul écrit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. » Paul veut dire que nous devons appliquer la foi à tous les domaines de la vie pour que nous changions notre vision et notre approche, par exemple, du travail ou notre approche des loisirs, la façon dont nous traitons les autres, la façon dont nous traitons l'argent, notre carrière professionnelle, les buts que nous nous donnons dans la vie, les habitudes quotidiennes. Mais pour éviter qu'on désespère devant une tâche aussi difficile, Paul rajoute au verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Oui, nous devons mettre en œuvre notre salut. Mais c'est Dieu qui œuvre en nous le vouloir et le faire. Nous changeons notre approche parce que Dieu change nos attitudes. C'est lui qui change notre esprit, c'est lui qui transforme notre cœur, c'est lui qui transforme nos désirs pour qu'ils se conforment davantage aux siens. Et il le fait par ses moyens de grâce qu'il nous donne, sa parole, la prière, et ce que l'on appelle les sacrements, la scène et le baptême. Et on ne peut pas sous-estimer ces moyens qu'il nous donne, qu'il nous a donnés, qui sont là, d'où l'importance de lire, de méditer, d'entendre l'explication de la parole, de lire la parole soi-même, de méditer sur sa parole, de l'apprendre, mais aussi de venir à Dieu dans la prière. Vous connaissez ce passage en 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Paul écrit à Timothée en lui disant « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voilà la raison, voilà le pourquoi. C'est par la parole, et toutes les paroles sont utiles, elles sont inspirées de Dieu, et elles sont utiles pour nous enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que nous soyons prêts, que nous soyons accomplis, que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Et Paul précise ici dans le verset 10 que nous sommes créés pour des œuvres bonnes en Jésus-Christ. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons cette foi vivante en Christ, c'est pour que nous devenions de plus en plus comme le Seigneur Jésus-Christ. Et pour que le Seigneur Jésus-Christ œuvre de plus en plus en nous avec sa puissance par le Saint-Esprit qu'il nous donne. Et c'est ce qui transforme une vie chrétienne défaitiste vers une hardiesse pour faire la volonté de Dieu. Comment est-ce que je puis avoir l'audace de vivre, de briller pour Dieu? Quand j'ai été recréé en Christ pour cela, c'est l'œuvre de Dieu en moi qui va me pousser à briller pour Dieu. Comment est-ce que je peux laisser mes anciens péchés derrière moi? C'est Dieu qui me donne de nouveaux plaisirs, des plaisirs qui sont bien plus supérieurs aux anciens plaisirs. Comment est-ce que je suis prêt à me sacrifier pour les autres et à cesser de vivre pour moi-même? Parce que je connais une puissance qui est à l'œuvre en moi, une source de vie céleste à laquelle je peux boire, parce que Dieu m'a donné la coupe pour boire à cette source, la coupe de la foi. C'est bien plus que simplement se demander qu'est-ce que Jésus ferait à ma place, comme si Jésus ne donnait qu'un exemple et qu'il nous laissait le soin de trouver la force nécessaire pour faire ce qu'il nous dit. Non, au contraire, on se demande, que va faire Jésus en moi alors que je me confie en lui, alors que je m'attends à lui pour qu'il me donne sa force, alors que je renouvelle mon esprit et mon cœur par sa parole. La vie chrétienne n'est pas un effort humain pour imiter le Seigneur Jésus-Christ. Non, Colossiens 1, verset 27, Paul dit ceci, « C'est Christ en vous qui est l'espérance de la gloire. » Ou Paul, en Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme un guide de montagne qui va grimper devant nous pour ensuite se retourner et nous donner des ordres pour le suivre. Non, au lieu de cela, il va faire descendre une corde très solide que l'on peut comparer au Saint-Esprit. Et à chaque faible pas que nous faisons pour avancer, lui, il va tirer sur cette corde. Et tôt, assez rapidement, nous réalisons que nous avons avancé beaucoup plus vite que nous ne le pensions. L'œuvre de Dieu en Christ, par l'Esprit Saint qu'il envoie dans le cœur du croyant, c'est la source de cette vie nouvelle que nous commençons à vivre en tant que peuple de Dieu ici-bas. Il y a la nécessité des œuvres, il y a la source des œuvres. Troisième point, il y a un plan pour les œuvres, pour les bonnes œuvres. C'est la chose peut-être la plus étonnante. Il y a un plan que Dieu a pour chacun de ses enfants. Verset 10. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Cela veut dire que c'est le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Et ce plan inclut des œuvres bien précises qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Ce n'est pas simplement que Dieu a prévu que nous pratiquions des œuvres bonnes dans un sens général. Non, le mot grec ne veut pas simplement dire que nous sommes destinés à accomplir des œuvres bonnes. Non, mais que Dieu a préparé ces œuvres à l'avance. Non seulement Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres, mais ces œuvres ont été, si on peut dire, créées pour nous, préparées pour nous. Notre rôle, c'est que nous les pratiquions. Dieu a dessiné un chemin de situations et d'œuvres bonnes pour nous. Et nous sommes appelés à suivre ce chemin en faisant sa volonté. Quelles sont les œuvres bonnes? Il y a tout d'abord l'obéissance à Dieu. Dieu s'est révélé. Dieu s'est d'abord révélé dans la création, nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu s'est révélé dans sa loi. Nous avons lu ce psaume 19. Verset 9, « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Mais on a aussi vu en Romains chapitre 3 que cette loi nous condamne, parce que nous sommes pécheurs. C'est pour ça que Dieu a révélé, dès le jardin d'Éden, la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette révélation progressive qui s'est faite avec l'accomplissement en Jésus-Christ, l'œuvre parfaite du Seigneur Jésus-Christ, en qui nous sommes appelés à croire, qui a parfaitement accompli les exigences de la loi, qui a satisfait toutes les exigences de la loi. Et il a aussi révélé l'œuvre de l'Esprit qui vient dans la vie des enfants, qui nous aide dans notre faiblesse, qui nous aide à comprendre, qui nous aide à prier. Il révèle ces choses dans sa parole. C'est pourquoi nous étudions la parole. C'est pourquoi nous cherchons à s'expliquer, à comprendre, à appliquer cette parole, pour vivre cette parole, pour obéir à cette parole. Au début de la journée, nous devrions dire, soit si nous restons à la maison, ou si nous allons au travail, ou quoi que nous fassions, nous devrions dire ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » C'est ce qui devrait être là, contre notre cœur, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il y a l'obéissance à la parole, il y a aussi l'exercice des dons. Dieu a donné à chacun de ses enfants des dons spécifiques, des capacités, des opportunités. Et nous sommes appelés à être des intendants fidèles au service du royaume de Dieu en communiquant des bénédictions pratiques. Certains ont le don d'enseigner, alors ils enseignent. D'autres ont le don d'exhorter, d'encourager. D'autres ont des dons dans l'aide qu'ils peuvent apporter, l'aide matérielle, l'aide pratique, dans l'administration ou dans le réconfort, dans le soutien de ceux qui passent par des moments difficiles. Chacun a un rôle que Dieu lui donne. Chacun a un moyen d'aider le peuple de Dieu. Et chacun est appelé à utiliser ce don que Dieu lui a donné. Le problème majeur dans la vie, c'est l'envie, c'est le mécontentement. On veut le don qui est accordé à l'autre, surtout si c'est un don qui conduit vers la notoriété, vers la louange des hommes. On veut être dans la situation de quelqu'un d'autre. Mais nous sommes là, nous sommes ce que nous sommes, et nous sommes là où nous sommes parce que Dieu l'a décidé ainsi. Il veut faire quelque chose dans notre vie que personne d'autre ne pourra faire. Il veut que notre vie apporte une vision particulière sur sa gloire qu'aucune autre vie ne pourra le faire. Et donc nous sommes appelés à rester nous-mêmes et à accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Mais il y a aussi les œuvres bonnes que l'on pourrait décrire comme étant générales, que nous devrions considérer comme étant un devoir volontaire. Nous sommes bien différents les uns des autres dans beaucoup de domaines, mais nous sommes tous appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à prier, à faire connaître la parole de Dieu, à vivre une vie différente, à adorer son peuple ensemble et à participer à l'œuvre missionnaire. Ça, c'est des choses générales qui concernent tout croyant, tout enfant de Dieu. Quand on prend ces trois choses sérieusement, l'obéissance à la parole de Dieu, l'utilisation de nos dons, de nos capacités et l'accomplissement du devoir général de chaque croyant, on peut comprendre pourquoi Paul était si excité en écrivant ce chapitre. Il a commencé en décrivant notre vie où nous étions loin de Dieu, nous étions sous la puissance de ce monde, la puissance du diable, de la chair. Mais maintenant, nous vivons dans la puissance de Dieu. Nous vivons une vie qui est alimentée par la grâce de Dieu, par la vie de Dieu, par la lumière de Dieu. Voilà le changement étonnant, le changement remarquable que seul Dieu peut opérer en Jésus-Christ. Une chose que cela veut dire, c'est que notre vie compte. Il y a des choses que nous allons faire, que personne d'autre ne pourra faire. Et même si on ne sait pas ce qu'il y a derrière le coin, dans le prochain virage, on sait que l'on pourra faire la volonté de Dieu, parce que Dieu, non seulement a préparé ce qui vient pour nous, mais il nous a préparé pour ce qui vient. Un commentateur écrit ceci: « Si je pouvais accepter cet enseignement une fois pour toutes et me reposer dans cette vérité, je pourrais affronter toutes les nouvelles circonstances en sachant deux choses. D'abord, que Dieu m'a préparé en Christ pour tout ce que ce jour va m'amener, et ensuite, tout ce que je rencontre au fur et à mesure que le voile se lève, même si c'est inconnu de moi, Dieu le connaît. Les œuvres bonnes sont préparées d'avance, décidées d'avance pour que nous les pratiquions. » Et enfin, à la fin de notre vie, à notre mort, nous pouvons avoir la certitude, l'assurance de savoir que notre travail est fait. Tant que nous n'avons pas accompli les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, nous sommes immortels. Personne ne pourra nous faire mourir. Mais quand toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous sont faites, nous pouvons partir, quitter ce monde en paix. Mais quatrième point, l'ouvrage de Dieu. Dans les premiers mots de ce verset, Paul résume tout son enseignement au sujet du salut. Nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et le mot grec qu'il utilise ici, ouvrage, c'est le mot qui est à l'origine de notre mot poème. En fait, c'est un terme général pour décrire une œuvre d'art. Cela veut dire que notre salut est l'œuvre de Dieu, qu'il repose sur sa toute-puissance, sur sa volonté souveraine. Cela veut aussi dire que toutes les grandes créations de Dieu, le pécheur racheté qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui vit pour Dieu, cette vie transformée, est le plus grand de ses chefs-d'œuvre. Nous avons lu tout à l'heure le psaume 19. Nous avons lu au verset 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et c'est vrai que quand on regarde le ciel étoilé, on voit toutes ces lumières qui viennent d'étoiles, qui viennent de galaxies qui sont très loin. Et on peut imaginer quelque chose de la grandeur de la création de Dieu, de la majesté de cette création. Mais aussi merveilleux que cela soit-il, le cosmos n'est pas le chef-d'œuvre de Dieu. On peut chercher la plus belle plage, on peut chercher le meilleur coucher de soleil, on peut aller voir les meilleurs sommets enneigés d'une neige éternelle. La nature est époustouflante, mais ces choses ne sont pas le chef-d'œuvre de Dieu. Le psaume 8 nous rappelle que le cri d'un nourrisson révèle la gloire de Dieu. Et on se dit, c'est sûrement le sommet de la création naturelle. Voilà un nouveau-né, si complexe et si simple en même temps. Il a les yeux ouverts, il a les bras tendus vers la vie. C'est une merveille physique. Le cerveau de ce nouveau-né, c'est comme un ordinateur étonnant qui enregistre toutes ses expériences. Ses yeux focalisent la lumière sur la rétine, stimulent 125 millions de terminaisons nerveuses. En un millième de seconde, cette information est traitée par le cerveau pour en faire une image. Voilà la manifestation de la sagesse, de la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu, dit Paul dans ce verset, c'est l'homme ou la femme qui était mort dans le péché, que Dieu a ressuscité par sa grâce, par son amour. Il les a ressuscités de cette mort spirituelle, pour les sauver, leur donner la vie, afin qu'ils accomplissent de bonnes œuvres en son nom. Ça, c'est le chef-d'œuvre. 2 Corinthiens 5, verset 17, ce passage, nous l'avons lu aussi tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà le chef-d'œuvre de Dieu, accompli par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, qui a livré son sang pour sauver son peuple, accompli aussi par le Saint-Esprit qui vient souffler, qui vient vivre, habiter dans le cœur du croyant. Et si nous sommes à Christ, voilà l'œuvre qui se déroule dans nos vies. Cela veut dire que quoi que ce soit que Christ nous appelle à faire, il fera en sorte que nous soyons capables de le faire. C'est pour ça que Paul peut écrire en Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Non pas par mes propres forces, mais par celui qui me fortifie. Ça veut dire que si nous sommes appelés à passer par des épreuves ou par des souffrances, que ces choses ont un but. Elles ont un but dans le plan de Dieu. Nous sommes, dit Paul, l'ouvrage de Dieu et il nous équipe pour les bonnes œuvres à venir. Ce qui compte réellement, ce n'est pas où nous en sommes dans le plan de Dieu. Ce qui compte, c'est d'être en Christ, d'être né de nouveau et de savoir qu'en étant en Christ, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, de la grâce de Dieu. Et ce qu'il a commencé par sa grâce, il va le compléter, le rendre parfait dans la gloire. Quelques questions pour terminer. Est-ce que nous connaissons ce que Paul décrit ici? Est-ce que nous sommes conscient d'une pression douce mais constante de la main de Dieu sur l'argile de notre vie. Est-ce que nous voulons plus de Dieu, plus de sa parole, plus de son esprit? Est-ce que nous nous languissons après la sainteté? Est-ce que nous vivons d'une manière qui révèle que seul Dieu peut être l'auteur de ce changement? Si on ne connaît pas ces choses, c'est un avertissement. Tout ne va pas bien avec notre âme. Si nous voulons être pardonnés sans être transformés, alors on ne comprend pas l'évangile que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Dr. Martin Lloyd-Jones, prédicateur gallois du siècle passé, 20e siècle, dit ceci: « Il n'y a aucune valeur dans une profession de foi en Jésus-Christ si elle n'est pas accompagnée par un désir d'être comme Christ, un désir d'être délivré du péché, un désir de sainteté. » Si on n'est pas à ce stade, alors il faut abandonner toute idée de bonne œuvre, parce que nous ne pourrons jamais les faire. Il faut d'abord être né de nouveau, sauvé par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, parce que c'est Dieu qui est la source de ces œuvres bonnes, par son Esprit qui agit en nous. Mais par contre, si on a ce désir, non seulement d'être pardonné, mais aussi d'être transformé, d'être délivré du péché, d'être saint, alors réjouissons-nous, parce que cela vient du fait d'être unis à Christ par la foi. Dieu œuvre en nous le vouloir et le faire. Il œuvre en nous pour que nous pratiquions les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Car, dit Paul, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.